Vous écoutez Libre Propos sur Radio Grand Ciel avec Karine Delamer. Bonjour à tous, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Bénédicte Mouillot, célibataire consacrée de la communauté du Chemin Neuf. Bénédicte, bonjour.
Bonjour.
Bénédicte, je suis heureuse de vous accueillir car il va y avoir très prochainement à Épernon le 10 décembre prochain une journée de 9h à 16h sur une certaine
Edith Stein.
Edith Stein. Alors Edith Stein, juste pour resituer, hein, Edith Stein c'est une jeune femme née en Prusse, donc d'origine...
Oui, 1891.
Oui, donc ça ne nous rajeunit pas, d'origine juive, qui a fait des études de psychologie, qui a été avec Husserl, le fondateur de la phénoménologie, vous m'expliquerez, qui s'est convertie en 1921, qui est rentrée au Carmel en 1933 en pleine tourmente, qui au moment de la nuit de cristal en 1938... a compris qu'elle mettait sa communauté en danger de ses origines juives, donc elle est partie aux Pays-Bas. Manque de chance, les Pays-Bas ont été envahis. Elle a été déportée, et morte dans les 1942. Et pourtant...
À Auschwitz,
aujourd'hui en 2016, on passe une journée, et apparemment ça a l'air d'être quelque chose de très couru. Alors ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que cette femme est si extraordinaire qu'on en fasse des journées et des thématiques, et même des thèses en ce qui vous concerne? Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rapport par rapport à elle?
Alors effectivement, donc moi c'est une longue histoire avec Edith Stein, puisque je l'ai découverte, hein, j'en avais jamais entendu parler auparavant, donc quand j'étais en classe préparatoire, donc par mon professeur de philosophie. Et donc au départ, moi, c'est vraiment cet itinéraire de vie tout à fait hors norme qui m'a fascinée, enfin, chez elle. Voilà, c'est cette femme qui, une des premières à faire des études de philosophie début du XXe siècle. Elle était seule, hein, quasiment. Enfin, elle devait être deux, dans un univers totalement masculin. Sa famille l'avait d'ailleurs dissuadée de faire de la philosophie, en disant que ça se faisait pas, quoi. Puis il y avait aucun avenir. D'ailleurs, elle ne pourra jamais obtenir de chair de philosophie parce qu'elle ne sera jamais soutenue parce que c'était une femme, et ensuite parce qu'elle était juive. Donc elle a réussi à obtenir un poste, et puis les lois anti-juives l'ont obligée à démissionner quelques mois après. Et donc il y a ça, et puis donc ensuite cette décision de faire de la philosophie, hein, qui est tout à fait, enfin, extrêmement courageux et libre à cette époque-là, sa conversion au catholicisme, hein, et là aussi comme juif, hein, ça a été
ça interroge, hein.
Oui, ça interroge, alors d'autant plus que moi ce qui m'intéressait c'est le rôle qu'a joué la philosophie dans cette conversion, hein, puisque elle a été élevée dans la foi juive à l'adolescence. Elle est devenue totalement indifférente, elle dit, aux choses religieuses, elle n'y trouvait pas de sens. Et comme c'était quelqu'un de très authentique, elle ne voulait pas jouer la comédie, participer à des rituels qui n'avaient aucun sens pour elle. Donc elle dit qu'à l'âge de 14 ans à peu près, elle délibérément cesse de prier, de participer aux cérémonies, à la synagogue, etc. Et puis c'est par la phénoménologie, par la philosophie, que par honnêteté intellectuelle, elle a été contrainte en quelque sorte de s'intéresser à nouveau aux choses de la foi.
Et qu'est-ce que c'est que la phénoménologie?
Alors la phénoménologie, donc c'est difficile d'expliquer de quoi il s'agit, en quelques phrases, mais en très gros. Donc c'est un courant philosophique, une nouvelle démarche philosophique qui a été initiée par Husserl, Edmund Husserl, donc qui est lui-même d'ailleurs un juif d'origine juive et devenu protestant à l'âge de 30 ans, voilà.
Ah bon? D'accord.
Avec sa femme. Et la devise de la phénoménologie, c'est le retour aux choses mêmes. Revenir aux choses mêmes, c'est-à-dire, à la réalité. Donc, il y a une sorte de rupture avec tous les systèmes philosophiques, les préjugés, etc.
D'accord.
Et cette exigence de revenir aux choses mêmes. Et Edith Stein, alors il faut comprendre, hein, que ce qui était dominant dans l'univers intellectuel de l'époque, c'était le relativisme, le scepticisme,
c'est-à-dire
qu'il y avait une espèce de de méfiance à l'égard de la raison. Hein, c'est voilà dans un néo-kantisme. C'est cette idée que la raison ne peut pas atteindre la réalité telle qu'elle est en elle-même.
D'accord.
Hein, et donc la phénoménologie offrait un nouvel espoir à beaucoup de jeunes intellectuels, jeunes étudiants qui voyaient là l'espoir de pouvoir atteindre dans une démarche rationnelle à nouveau la vérité.
Hein. Alors,
très gros.
En vous entendant, vous me dites parce qu'elle était philosophe, parce qu'elle a essayé d'être intellectuellement honnête, elle s'est réintéressée aux questions de la foi, alors que souvent quand on parle d'une conversion, on dit il y a un avant, il y a un après, et on oublie tout ce qui s'est passé. Est-ce que là, c'est pas le cas pour elle ?
Alors, donc il y a à la fois une nouveauté, hein, c'est sûr, dans toute démarche de conversion, ça constitue une nouveauté radicale, quelque chose qui a ouvert des horizons, tout à fait nouveau pour sa pensée, en même temps, effectivement, cette démarche, elle s'inscrit dans une profonde continuité. C'est-à-dire que, il y a justement quelque chose à voir avec sa conception de l'incarnation. Hein, c'est-à-dire que c'est une chose, que je pourrais présenter justement dans cette journée à Hypernon.
D'accord. Alors si elle continue, donc si je comprends bien, d'abord elle est d'origine juive, donc elle baigne dedans, elle découvre la philosophie, une philosophie différente. D'accord. Elle se convertit, elle a quel âge ?
Elle a 30 ans. Ça a été un long itinéraire, ça ne s'est pas fait. Elle est passée par des combats intérieurs extrêmement violents. Il y a eu deux grandes étapes significatives. Hein. Elle raconte d'abord en 1917, un de ses amis phénoménologues qui lui-même s'était converti sur le champ de bataille donc pendant la Première Guerre mondiale, qui était d'origine juive, qui est passé d'une indifférence religieuse à la foi, et qui était un des premiers, justement c'était le bras droit de Husserl à Göttingen, et ça a été un des premiers à essayer d'élaborer une phénoménologie religieuse. Il avait commencé sur le champ de bataille à écrire un peu une ébauche de phénoménologie religieuse. Il décède en novembre 1917 sur le front, et sa femme, Anna, qui était aussi une amie d'Edith, Anna Reinhardt, demande à Edith de l'aider à classer justement les papiers philosophiques de son mari. Mmh. Et Edith s'attendait à trouver une femme, donc c'était un jeune couple, très amoureux, etc. Edith Stein était absolument meurtrie par cette disparition brutale. Et elle s'attendait à trouver sa femme totalement détruite. Et en fait, donc Anna s'était elle aussi convertie en même temps que son mari. Et ils avaient demandé le baptême tous les deux tout récemment, à l'occasion d'une permission de son mari, Adolphe. Et Edith Stein est surprise de voir une femme debout. Donc, effectivement,
oui, s'interroge.
Et qui était une femme profondément, évidemment, atteinte et peinée de la disparition brutale de son mari, mais malgré tout, debout. Et elle dit que pour la première fois, elle a vu briller la lumière de la croix. Enfin, elle a compris quelque chose du mystère de la croix à travers le témoignage de force, de courage, d'espérance que manifestait Anna Reinhardt. Elle a saisi quelque chose du mystère de la croix. Et c'est pas pour rien qu'en entrant au Carmel, elle choisira comme nom de religieuse Thérèse Bénédicte de la Croix, bénie par la croix. En même temps, elle n'a pas encore rencontré le crucifié. Et ça va se produire, cette étape-là, en lisant La vie de Thérèse d'Avila, donc en 1921, 4 ans plus tard.
D'où le choix de Thérèse.
Absolument.
D'accord.
Et là, en lisant... par hasard, je ne sais pas, enfin, on ne sait pas trop. En tout cas, en lisant une nuit de juin 1921, l'autobiographie spirituelle de Thérèse d'Avila, elle se dit, c'est là la vérité. Voilà, cette vérité qu'elle cherchait depuis si longtemps, à travers la philosophie, à travers cette démarche intellectuelle, menée avec une très très grande rigueur et honnêteté, elle découvre que ce n'est pas simplement une idée, mais la vérité, c'est quelqu'un en la personne voilà, en la personne du Christ. Et donc, le jour même, elle décide de demander le baptême dans l'Église catholique.
Le jour même.
Le jour même, voilà.
Ah oui, quand même.
Et, ah oui, oui, ça a été... D'accord. Alors, je vous dis, c'est le fruit d'un long cheminement.
Non, mais dans sa famille, ça doit être un choc autour d'elle, ça a dû être quelque chose, quand même.
Absolument. Hein. Alors, donc, pour compléter la réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a bien cette continuité, hein, mmh. parce qu'elle dira elle-même, en relisant a posteriori son parcours intellectuel et spirituel, « Dieu est la vérité. Qui cherche la vérité cherche Dieu, qu'il le sache ou non. » Mmh. Et elle comprend, en fait, cette quête donc, qui est passée par d'abord la psychologie qui l'a déçue à l'époque. Bon, c'était une psychologie balbutiante, pas très rigoureuse. Donc ensuite la philosophie, la phénoménologie, voilà, elle comprend en fait que cette quête de la vérité était une quête de Dieu.
D'accord.
Et elle dira même, avant ma conversion, ma seule prière était ma recherche de la vérité. Donc il y a une dimension au fond sacrée, quoi, de la
oui,
recherche.
C'est une histoire sainte
qu'elle raconte. Voilà, une dimension sacrée, enfin de la recherche de la vérité ou du bien, du beau, enfin comme elle le dit. Hein. Mm-hmm. C'est voilà l'expression de notre désir de Dieu. Hein. Et donc ça c'est la première chose. Et puis donc la deuxième question que vous me posez, oui, le choix du catholicisme. Hein. Alors là aussi c'est quelque chose de tout à fait audacieux, hein, parce qu'il faut comprendre que je crois que pour sa famille c'est ça qui a été le plus difficile, non pas qu'elle devienne chrétienne, mais qu'elle devienne catholique, hein,
ah oui.
parce que le protestantisme était pour des juifs un moyen d'intégration, mm-hmm. hein, d'un point de vue social, et puis il y avait quelque chose voilà, qui était beaucoup plus compréhensible pour un intellectuel, il y a une rationalité voilà, du protestantisme, alors qu'il faut comprendre que dans la Prusse de l'époque, le catholicisme c'était la religion des immigrés espagnols, etc.
D'accord.
Et c'était perçue comme une religion encore pleine de superstitions. Bon. Donc comment une intellectuelle de cette envergure pouvait s'abaisser à embrasser une religion apparemment aussi qui était quand même jugée comme voilà, très encore pleine de croyances un peu. Et une de ses sœurs lui dira mais alors maintenant tu vas embrasser les chaussures des prêtres, etc.
Et ça nous montre un petit peu la force de sa conversion. Alors malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête, je suis désolée. Mais par contre, si vous avez envie de découvrir tout ce qu'elle peut vous apporter pour ce temps de Noël, puisqu'elle a particulièrement réfléchi sur la croix et la crèche, cette articulation, hein, je crois, assez étonnante.
Oui, oui, et puis je crois qu'elle a une pensée tout à fait originale de l'incarnation, originale au sens où... il faut que j'aille très vite... De par ses origines juives, de par son lien avec Thérèse d'Avila, qui en son temps a beaucoup insisté sur l'humanité du Christ, de par sa phénoménologie du corps et de la liberté, voilà, elle redonne une dimension extrêmement profonde à l'incarnation, et je crois qu'elle peut nous aider aujourd'hui à comprendre ce mystère qui est au cœur de la foi chrétienne. Hein, c'est Tertullien, père latin, qui disait que la chair du Christ est le pivot de notre foi, hein, et on l'oublie parfois un petit peu. Et donc voilà, je crois qu'Edith Stein vraiment peut nous aider en ce début de l'Avent, là, le 10 décembre, vraiment à comprendre toute la profondeur de ce mystère du Dieu fait homme, hein, et le mystère de notre propre incarnation, tout ce qui se joue de notre salut à travers notre corps.
Bien voilà, un très beau programme que je vous invite à retrouver à Épernon, donc, le 10 décembre de 9h à 16h, avec Bénédicte Bouillot. Bénédicte, merci d'être venue sur Radio Grand Ciel.
Merci, à bientôt.